Émission noir, c'est noir spécial avec Jean-Bernard Pouilly à l'occasion de la parution d'une brève histoire du roman noir aux éditions L'Œil Neuf. Alors, Jean-Bernard Pouilly, bienvenue dans les studios de Radio PFM.
C'est un plaisir.
partagé. Il y a 25 ans, en 1984, Jean-Bernard Pouilly, vous publiez votre première série noire. Qui porte toujours d'ailleurs hein, le numéro 1968, un numéro fétiche, je suppose.
J'ai rien demandé, hein, c'est le hasard total.
Voilà, hein, donc série noire intitulée « Nous avons brûlé une sainte ». Cette première série noire, en réalité, votre deuxième roman, hein, le premier, et avec le premier, le ton est donné, hein, puisque c'est Spinoza Encul et Hegel qui était publié chez Sanguine en 1983, une collection aussi de romans noirs intéressantes.
De néopolar.
De néopolar. Alors néopolar, je note, on y reviendra hein, sur le néopolar. Donc voilà, donc avec ce titre, hein, le ton est donné. Alors depuis... Il y a une bonne dizaine de romans en série noire et plein d'autres choses ailleurs, hein, d'autres romans, des nouvelles, du jeu aussi autour de l'écriture, hein, notamment les deux derniers textes de ce type, Chez Rivage Noir avec Marc Villard, hein, où il y a des échanges.
On lutte. Enfin, c'est-à-dire que Marc Villard est réputé comme le meilleur novelliste. Donc, mon boulot est d'essayer de prouver le contraire. Et on en est au troisième, c'est pas encore, ça marche pas encore. Donc, il faut peut-être attendre un peu encore.
Bon, d'accord. Donc, mais bon, il faut persévérer. Donc je disais beaucoup de choses, en particulier le poulpe. On va y revenir, hein, on va vous demander quelques nouvelles du poulpe. Vous avez créé le poulpe. Vous avez créé aussi une collection Suite Noire. Hein, donc là, c'est un clin d'œil à la série noire.
Qui a disparu. Enfin, la série noire dans sa version poche, telle qu'elle existait depuis 1945, a disparu au profit d'autres livres qui sont hardcover, c'est-à-dire qui valent beaucoup plus cher, qui ont la taille des livres mainstream, un peu chic. Mais bon, notre série noire chérie, qui tenait dans la poche, tout ça, bon, c'est terminé.
Bon, on y reviendra aussi à la série noire. En tout cas, le dernier roman en date, ça s'appelle La Récup. Le dernier roman hein, en date, La Récup.
Ah non, il y en a eu d'autres depuis.
Depuis, il y en a eu d'autres.
Oui, il y a Rosebif Saignant chez Cobbraise, c'est les Bretons.
D'accord, donc voilà, un scoop.
Mais moi, j'adore travailler pour les petits éditeurs dont les productions n'arrivent même pas jusqu'à Paris.
Et encore moins jusque Radio PFM.
C'est pas sûr. C'est pas sûr. Peut-être que ça arrivera à Arras avant que ça arrive à Paris.
En tout cas, il faudra nous l'envoyer.
Oui.
Et donc, sinon, le roman grand format chez un éditeur qui n'est plus la série noire, qui est maintenant donc Fayard Noir, ça s'appelle La Récup et c'est sorti il y a 6 mois à peu près. Il y a 6 mois. Alors, Jean-Bernard Pouilly, on n'est pas là pour parler de Jean-Bernard Pouilly, même si on va en parler un peu. On est là pour parler avec. Jean-Bernard Pouilly, on est là pour parler de romans noirs. Mais un dernier mot quand même, bon, hein, on a parcouru, s'est rendu compte que vous êtes particulièrement qualifié pour parler romans noirs, pour parler polar, néopolar, tout ce qu'on veut. Il y a eu aussi beaucoup de prix, hein, vous avez reçu pas mal de prix. Peut-être que le prix Paul Féval est celui qui vous tient le plus à cœur.
Oui et non. Oui, parce que c'est la Société des gens de lettres, et que moi j'en ai rien à battre de la Société des gens de lettres, mais en même temps j'aime bien Beaumarchais, qui est le créateur de cette société, et c'est celui qui... il est très d'actualité, Beaumarchais, parce que c'est celui qui a quand même créé les maisons de gestion des droits d'auteur, et en ce moment, on ne parle que de ça. Donc, Caron de Beaumarchais était un personnage assez étonnant. Il trafiquait d'armes en même temps, enfin bref. C'était un mec assez étonnant. Donc, ouais, c'était pour le poulpe. Alors, c'est aussi bien que ce prix soit tombé. C'est des prix pour l'ensemble de votre œuvre. Alors,
ouais,
dès
c'est
qu'on
ça,
dit
oui.
Un prix pour l'ensemble de votre œuvre, ça sent le foyer logement quand même. Donc, faut vraiment faire gaffe. Mais.
Bon, c'était il y a un moment en plus. C'était en 80, fin des années 90, non ?
Oui, mais ça fait un moment que je suis vieux. Hein. Donc. Alors, comme le prix de l'humour noir, l'année dernière, c'est aussi pour l'ensemble de mon œuvre. Alors. ça commence à sentir le sapin quand même. Ouais, enfin, bon. Oui. La bière finale, comme on dit.
Alors bon, alors Paul Féval, c'est entre autres le prix Paul Féval entre autres pour le Poulpe. Alors des nouvelles du Poulpe, puisqu'il y a une nouvelle, enfin ça repart.
Hein. Alors le Poulpe repart, c'est-à-dire il repart, il n'a jamais arrêté vraiment, il y a eu toujours quelques petites productions, mais il était la propriété du Seuil, qui avait racheté Baleine, et puis qui avait viré un peu tous les créateurs du Poulpe les uns après les autres. Moi j'avais démissionné à cette époque-là, et quelqu'un du Seuil a réussi à se barrer du Seuil avec... le Poulpe, les droits, le stock, les contrats, tout ça. Donc, ils recommencent d'une manière indépendante. Et ma foi, c'est justice, parce que nous, on avait lancé le Poulpe sous Juppé, hein, les grandes grèves, la dissolution de l'Assemblée nationale, tout ça, tout ce merdier. Et en ce moment, c'est quand même un peu anormal, avec notre bonne crise, chérie. La crise de foi, moi, pour moi surtout. Mais enfin bon, la crise et puis Sarkozy, tout ça, c'est un peu normal que le Poulpe recommence. Mm-hmm. Et il recommence, à mon avis, assez durement. Et pour l'occasion, j'en ai fait un. J'avais toujours dit que je ferais le dernier, mais je n'ai pas tenu ma promesse. Donc,
bah, pour ça ne veut pas dire, il peut y en avoir.
Oui, ouais, bien ouais. sûr. Mm. Je le relance et c'est un Poulpe qui se passe dans le Nord. Là, à côté, sur l'Escaut.
Donc moi j'ai vu qu'il y en a, bon il y a celui qui est sorti là, qui a relancé, c'est un Poulpe de Caryl Ferré.
Il y en a un de Caryl Ferré, il y en a un de Francis Misio.
De Noël Simsolo, Jérôme Leroy qui sont aussi les...
Jérôme Leroy.
Et alors le vôtre, il va sortir quand
En juin je crois.
En juin, ouais. Et le titre
5 bières de Rome.
Bon.
Oui, je sais, c'est con, mais enfin bon, on n'attend pas d'autre chose des titres du Poulpe. Plus c'est bête, mieux c'est.
Voilà, donc le Poulpe, alors, se porte bien après une interruption, hein, et donc on le trouve à nouveau en librairie. On a parlé rapidement en série noire. Il n'y aura plus de série noire signée Jean-Bernard Pouy ?
Ah ben, théoriquement, non. Enfin, parce que moi, j'étais vraiment à l'aise dans la série noire telle qu'elle existait avant. Parce que les bouquins de poche pas chers, ainsi de suite, aussi peuvent admettre des textes qui... je sais, c'est une idée idiote que j'ai, mais dont je me déparie pas. C'est vrai qu'un bouquin à 20 euros... t'as intérêt à être sérieux quand même, à fournir déjà un récit quand même assez grand et tout pour pas léser le lecteur. Au moins la série noire d'avant, qui était pas chère, qui était vraiment de poche, on pouvait présenter des bouquins un peu crétins, comme j'en ai fait quand même beaucoup. C'était pas en étant sérieux. Hein,
en même temps, il y avait des inédits. Enfin, c'était une collection
d'inédits. Ah, c'est une collection d'inédits.
Des inédits de poche qui étaient sérieux aussi.
Ah oui, bien sûr. Non, mais moi, parce que bon, moi, c'était mon truc, mais oui, c'est quand même là où sont apparus la plupart des auteurs qui ont compté après. Donc, je sais pas, par exemple, pour prendre le cas de Caryl Ferré, il a commencé aussi à la série noire, dernière version, mais c'est vrai que c'était encore la série noire. Donc, tout d'un coup, ils ont décidé de l'annuler au profit de Folio Policier, parce que c'est Folio qui a tué la série noire, dans un sens où les réimpressions des premiers tirages de la série noire, avant on avait 3 ou 4 réimpressions à chaque fois, mais là ça passait en Folio Policier. Donc il y avait une espérance de vie pour la série noire première qui était moindre. Elle a disparu. Alors elle existe toujours en grand format, où il y a des textes peut-être un peu plus ambitieux, plus longs, plus épais, pour que le prix entre 15 et 20 euros soit acceptable. C'est du hardcover.
Alors ouais, mais par exemple, chez Fayard Noir, c'est pareil, c'est du grand format.
Alors bon, moi je voulais pas. Je voulais pas travailler pour du hardcover, parce que c'est pas ma licence et tout. Mais j'ai un copain qui est Patrick Rénal, donc...
qui était le patron de la série noire.
Et oui,
qui
alors, il a choisi de... Fayard Noir. Donc, où je me fâche avec un copain, où je publie chez Fayard Noir. À un moment donné, j'ai préféré quand même publier chez Fayard Noir, voilà. Bon. Mais bon, c'est pas une... pas une grande victoire sur l'adversité, disons.
Et on vous retrouve toujours, tout à l'heure, on parlait des nouvelles avec Marc Villard, donc des inédits, en poche, chez Rivage, là, en poche, inédits.
Oui, et puis je travaille beaucoup pour plein de petits éditeurs, surtout pas parisiens, et donc c'est la joie de publier des petits romans pas chers, chez Cobbrez, par exemple, les Bretons, où je viens de publier un bouquin. Il y en a plein, parce que moi, j'écris beaucoup, donc mon polar sérieux annuel sera, je sais pas où, peut-être encore chez Fayard Noir, c'est pas sûr. Mais en tout cas, entre-temps, il y a plein de petits livres qui paraissent partout. Hein.
Alors, Jean-Bernard Puy, avant d'en venir à cette brève histoire du roman noir que vous publiez chez L'Œil Neuf, un petit éditeur aussi, on peut le dire, un petit éditeur parisien,
qui est quelqu'un de bien, que j'avais connu quand il travaillait chez Autrement. Il travaillait chez Autrement et je... moi, je faisais les nouvelles pour Autrement ou des textes un peu annexes comme ça, et je l'avais connu. Puis là, je l'ai retrouvé. Il m'a demandé ça, donc.
On va y revenir avant. Toujours, quelques nouvelles de Jean-Bernard Puy, puisque il est ici, on en profite. Donc, vous êtes à Arras, hein, vous êtes dans le studio de PFM. On enregistre cette émission dans nos studios. À l'occasion du Salon du Livre du 1er mai. Et vous êtes, depuis cette année, un des parrains, des quatre parrains du Salon du Livre du 1er mai à Arras, Expression populaire et critique sociale. Oui. Hein.
Je savais même pas, moi.
Un des quatre parrains. Ah, si, si.
Mais il n'y a pas besoin, parce que n'importe comment, invité ou pas, je viens. Mm-hmm. 1er mai. Alors, je loupe la grande manif, unitaire ou pas, de Paris. Mais je me suis fait suffisamment casser la gueule pendant cette manif dans ma jeunesse que, en fait, je préfère être ici.
Il y a une manif aussi à Arras. Hein.
Ah, il y a une manif aussi à Arras. Le matin aussi.
10h, place de la Guerre. Le départ, c'est 10h, place de la Guerre.
Et après, ils vont au festival.
Ils se terminent. Le cortège se termine au salon sur la place du sur la place du théâtre. Oui, donc, si, quand même, bon, il y a quatre parrains à ce salon. Didier Deninx, Michel Ragon, Jacques Tardy et donc Jean-Bernard Puy. Vous faites suite à Frédéric Fajardi, qui était parrain, qui nous a quittés il y a un an.
Tu veux dire que j'ai remplacé un mort ?
Non, non, non.
Ça, c'est dur.
Donc, un mot par rapport peut-être quand même à Frédéric Fajardi.
Ben, on a toujours été choqués, mais en même temps, il s'absentait, Frédéric. C'est-à-dire qu'il n'était pas aussi pute que nous. C'est-à-dire, nous, on est toujours en train de boire des coups partout, se faire inviter de tous les côtés. Il était beaucoup plus secret. C'est-à-dire qu'il sortait pas chez... Alors, on ne pouvait pas savoir que c'était pour des causes de maladie ou autre, mais même avant qu'il soit malade, il était plus secret, il se mélangeait moins. On le voyait. Alors, c'est vrai qu'ici, on le voyait. C'est vrai qu'il avait des points de rendez-vous, notamment quand il rencontrait Didier, Deninx. Bon. Donc, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il soit parti le 1er mai. Et je me souviens, on l'attendait. Mmh. Et on disait le matin, tiens, qu'est-ce qu'il fout, Fredo, il n'est pas dans le train. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a été un peu choqués quand même et marqués.
Alors, c'est vrai que bon, Fajardi, Deninx, c'est un peu la même génération. Néanmoins, Fajardi, il a commencé...
C'était le premier.
C'était le premier. Hein. Donc, une source d'inspiration pour Jean-Bernard Puy.
Pas vraiment, parce que c'est pas, il n'était pas du tout dans mon champ, mais si ce n'est pas une source d'inspiration, c'est un exemple. C'est-à-dire que moi j'ai commencé aussi avec Mosconi, c'est-à-dire avec Sanguine, et Mosconi a fondé Fauteuil avec deux personnes, Alain Flegg qui avait fondé le Front homosexuel d'Action révolutionnaire, le célèbre phare, et Frédéric Fajardi, qui en même temps avait fondé l'édition Fauteuil. Et c'est là où ses premiers livres sont parus. Et c'est vrai, quand on a lu ses premiers textes, comme Tueur de flics par exemple, on s'est dit, ah, il y a quelque chose de nouveau depuis Hanchette. C'est-à-dire qu'après Hanchette avait un peu laminé le paysage, et quelques années, à peine, très peu d'années après, boum, ça recommence. Dans un autre style, beaucoup plus agité, et je pense que Fajardi a donné le ton directement tout de suite. C'est ce qui a fait pendant 3 ou 4 ans ce qu'on a appelé le néo-polar, groupé essentiellement autour des collections Sanguine et Engrenage.
Voilà, donc on rentre ici déjà dans la discussion hein, sur le genre policier, on y reviendra. Toujours dans cette introduction, un dernier mot. Donc, Jean-Bernard Puy, vous avez aussi intégré cette année le jury du prix Amila Mekir, hein, qui est décerné à l'occasion du sol.
Pas de la tarte, en revanche.
Ah oui, pourquoi c'est pas de la tarte ?
C'est toujours difficile de juger les confrères. Et là, ce que j'ai été assez content de voir qu'il y avait des textes, des livres qui étaient tout à fait hors du genre. Parce que le prix Amila Mekir, c'est vrai que Jean Amila est une des figures tutélaire du roman noir français et du polar. C'est vrai qu'on parle toujours de Manchette et d'Eninx, mais Amila est aussi important qu'eux. Et donc on s'attend à faire partie d'un jury de polar, ce qui est pour moi, c'est pénible parce que j'ai pas envie d'abord de magnifier les concurrents qui crèvent. Et puis, mais là, tout d'un coup, on avait des livres assez passionnants qui venaient un peu de tous les horizons. Et il y a une brochette de livres assez différents les uns des autres. Et pour définir après quel serait celui qui aurait le prix, ça a été assez velu, comme on dit à l'armée. Cela dit, bon, il ne faut pas dire les résultats, mais...
Si, on peut le dire. Hein.
Dire ouais. Mais c'est quand même ce qu'on appelle un polar, enfin un roman noir, mais qui est aussi un livre de littérature, tout simplement, qui a eu le prix. Mais j'avais pas voté pour lui, moi. D'abord parce que c'est un copain, il n'y a pas de raison. Et puis deuxièmement...
C'est Caryl Ferré pour Zulu, en série noire.
Pour Zulu, en série noire. Mmh. Dans la série noire, grand format. Mmh. Moi, j'avais voté pour Emmanuel Etzik, qui a fourni pour moi un ovni tout à fait étonnant, Il risque de pleuvoir, qui est un livre, pour moi, magnifique.
Amila Mekkar, donc ça a déjà été dit, une référence pour Jean-Bernard Puy. Alors, il y a bien sûr Amila, l'auteur de romans policiers, de romans noirs, de polar, et Jean Mekkar, qui a d'abord publié...
Qui avait commencé avant. Oui. Mais bon, parce qu'il y avait une habitude aussi à la série noire de prendre des pseudos qui fassent un peu américain. Alors il y a eu John Amila, Jean Amila, enfin il y a un peu de tout. Mais c'est un exemple.
Au début, je pense qu'il souhaitait...
C'est John Amila.
Ouais, c'est John, et lui, il souhaitait un Milanar, je pense, non ? C'est...
Qui a une signification. Il faudra demander à une spécialiste. Ouais, ouais, ouais. Mais on a toujours lu ses romans. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui a vécu dans sa chair son engagement, pas uniquement littéraire, mais qui, en dénonçant des choses dans ses romans noirs, dans ses polars, a mis le doigt sur sûrement des problèmes qui lui ont coûté la santé. Parce qu'il s'est fait quand même. Il a été laissé pour mort sur le carreau. Pour une histoire d'ailleurs qui est un peu d'actualité en ce moment, qui est le Mururoa, qui sont les essais nucléaires. Enfin, je crois que c'était le balcon d'Hiroshima. Donc c'est quelqu'un qui a jamais baissé les bras et qui a toujours compris que le roman noir ou que le polar, ça pouvait être un espace aussi de dénonciation, que c'était un espace de critique sociale, mais aussi un espace des dénonciations des travers de nos sociétés.
Alors on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant, Jean-Bernard Puy. Talking about my girl. Ça fait un paquet de temps et de textes que le roman noir a gagné. Le roman policier est à enfoncer dans les poubelles de l'histoire. Le thriller dans les chiottes du néo-freudisme et le roman à énigmes dans le compost du sudoku. Il nous reste à bousiller le polar qui, s'il rime pauvrement avec 68 heures, rime aussi avec vicelard, ringard, connard, faiblard, etc. Je me souviens quand j'étais jeune et lycéen, le mec boutonneux, vaguement faillot et terriblement travailleur, eh bien on l'appelait le polar. Celui qui préférait la trigonométrie au basket, bref, le chiant, le chieur, le mec à pas sortir, à citer Flaubert et pas Peter Chenet, Malebranche et pas Raymond Chandler. Le seul site polar à l'époque, c'était le Lagarde des Michards. Je me souviens que le polar, en argot, c'est la bite, le pénis, le manche. Même Céline, dans Mort à crédit, écrit « Il a sorti son polar, il s'est foutu à la bourrée ». Les auteurs, gonflés comme des outres, qui témoignent soi-disant de leur monde, qu'ils choisissent leur camp, qu'ils disent simplement qu'ils sont des écrivains de romans noirs. Alors pour en finir totalement avec le polar, il suffit de ne plus en parler. À bas la polarisation du monde, vive le roman noir. Donc c'est du Jean-Bernard Puy dans le texte, extrait de ce petit livre, Une brève histoire du roman noir, publié chez L'Œil Neuf. Alors, on peut considérer quelque part que c'est une...
C'est la provoque, hein, ça.
C'est de la provoque en même temps, oui. C'est aussi une profession de foi, parce que on est dans un genre, alors bon, c'est pas... par quelle boule prendre, les littératures policières, le polar, le roman noir, etc. Mais là, Jean-Bernard Puy, vous faites quand même le choix de, tout au moins, le souhait d'abandonner le mot polar.
Mais après l'avoir bien accepté, parce que c'est vrai que je l'ai vu apparaître, ce mot. Et avant, on disait le roman policier. Bon. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte que le roman policier n'est pas réductible à toute la production du genre, et qu'il y a les romans d'énigmes, il y a le roman policier, il y a les thrillers, c'est-à-dire le roman criminel, qui s'occupe plus du mal, et puis il y a le roman noir. Donc le polar, ça a été une facilité critique, universitaire, journalistique, pour désigner ces quatre genres qui étaient un peu traités de la même manière, parce que c'est vrai que, par exemple, à la série noire, il y avait des thrillers, pas beaucoup, mais enfin, il y en avait quand même, il y avait des romans énigmes, pas beaucoup, mais il y en avait, il y avait beaucoup de romans policiers, énormément, parce que c'était à la masse, et il y avait beaucoup de romans noirs. Donc, là-dessus, après, avec le temps, bon, on choisit. C'est-à-dire que moi, je fais pas de roman policier. Je n'arrive pas à...
Donc roman policier, alors.
Alors roman policier, c'est des romans où il y a des policiers. Ça peut être plus simple. Qui existe depuis extrêmement longtemps, qui existe depuis 1850, depuis Balzac et Edgar Poe. On peut même penser qu'il y en a eu peut-être avant, mais métonymiquement, c'est ça. Et bah, c'est le récit est mené par un policier, ou deux, ou trois. Donc c'est un roman qui a d'abord été simple, dans le sens où le personnage du policier n'était... C'est uniquement le moteur du récit, c'est lui qui va trouver la solution d'une énigme, d'un meurtre, d'une disparition, de hasard. Mais petit à petit, le policier, il est... tout le monde le connaît, et tout le monde essaie de l'éviter le plus possible, quand même, tout en l'appelant dès que ça va mal. Enfin bon. Donc c'est un personnage qui devient beaucoup plus complexe. Donc il y a les auteurs qui se détachent assez vite des policiers en temps de crise, en temps de problématique sociale et tout, parce que le policier, qu'est-ce qu'il fait? Il défend la morale, la loi, la justice,
le système. Place.
Alors, de temps en temps, c'est trop hard. Et c'est là où le roman noir est intervenu dans les années entre 20 et 30 aux États-Unis, parce que la ville, c'était des romans essentiellement urbains, la ville était tellement prise par la corruption, la formation des ghettos, les effets pervers de la prohibition, la corruption politique, tout ça qui fait que le policier, qu'est-ce qu'il défendait? Il défendait un gros tas de merde. Donc les auteurs avaient beaucoup plus de mal. Et les gens comme... James Cain, Hammett et compagnie, ont créé le détective justement parce que c'est un personnage de la vie civile et qui pouvait porter des jugements que le policier ne pouvait pas porter. Le roman policier dure toujours avec toutes ses versions. C'est-à-dire, il y a eu des versions extrêmement modernisées du roman policier où tout d'un coup, on s'intéresse plus au milieu de la police qu'au personnage lui-même. Et puis maintenant, par exemple, avec la mode de la littérature noire, du polar scandinave, disons, là, il y a des policiers intelligents, cultivés, ils sont déprimés tous, mais...
Ils font plus travailleurs sociaux que flics, quoi, non?
Oui, non, et puis surtout quand ils rentrent chez eux, ils lisent de la poésie transcendantale chinoise tout en écoutant du Mendelssohn. Donc moi j'aimerais bien en connaître des comme ça parce que ça me rassurerait. Donc moi j'ai jamais écrit sur les policiers. Donc j'écris pas sur le mal non plus, sur la psychopathologie, c'est-à-dire ce qui concerne vraiment le thriller, les serial killers, tout ça, enfin bon, les tueurs. Ça me gonfle ça. Les romans énigmes, bon. Agatha Christie, certains l'appellent Agatha, d'autres l'appellent Agato, comme disait notre ami des proches. Donc moi j'écris du roman noir parce que le roman noir est essentiellement et pratiquement obligatoirement un roman de critique sociale et c'est ça qui m'intéresse. Quitte
D'accord.
à le déconner autour, hein, je veux bien dire, mais c'est ça le niveau numéro un.
Donc on est bon, c'est le premier, hein, c'est le premier chapitre de cette brève histoire du roman noir. 9 chapitres d'ailleurs, hein, c'était je pense la règle à suivre. C'est une série de bouquins, hein, une collection brève histoire, donc avec déjà un certain nombre de sujets qui ont été abordés, le rugby, etc. Donc à chaque fois 9 chapitres. Donc pour le roman noir, c'est pareil. Donc le premier chapitre, c'est Empoignons la bête. Donc on vient de le faire. Alors donc, si je résume, hein, Jean-Bernard Puy, ce qu'on appelle le polar, c'est les littératures policières, c'est-à-dire le roman policier, le
Oui, mais moi
roman
je veux plus
énigme.
qu'on dise policier, parce que dans le roman noir, c'est pas une littérature policière.
Voilà, les Allemands parlent de roman criminel, par exemple.
Criminel, c'est le, ouais, le crimi, c'est plutôt le, pour moi, c'est plutôt le thriller. Mais c'est les
Donc
Italiens, mais là.
le thriller, c'est le roman du. Ah, mais c'est pour moi le thriller, c'est le roman de la victime.
Oui, c'est ça, c'est le roman du mal.
Ouais.
Le victime ou l'assassin, généralement, ils sont quand même très très liés. Et
Et le roman noir, alors?
le roman noir, c'est un roman, ça commence avec Ahmed, Chandler, McCoy et compagnie,
Peut-être avant aussi, parce que quand
Manchette,
on.
qui fait aussi du roman policier sur un, je crois, mais qui fait essentiellement du roman noir avec un détective une fois, mais après avec des personnages de la vie civile, une infirmière, un cadre dans la débine, un tueur, mais un tueur politique. Donc c'est, on oublie un peu le côté enquête, c'est-à-dire on oublie un peu.
Mais il peut quand même y avoir
Ah, il y
des
a
policiers
les
dans le roman
enquêtes,
noir.
c'est-à-dire moi,
Et des policiers aussi dans le roman noir.
oh, ils peuvent intervenir, mais ce sont pas les personnages principaux. C'est comme le dans les Même historiquement, dans les romans de Chandler, Marlowe, compagnie, ils ont toujours les emmerdes avec les policiers qui veulent lui enlever sa licence,
Licence de
qui le foutent
détective.
au gnouf, qui, avec eux, c'est toujours un concours de vannes lamentable. C'est un peu ça, c'est-à-dire que l'auteur de romans noirs se méfie des auteurs de romans policiers. Voilà.
Donc, surtout ne pas dire Jean-Bernard Puy, auteur de Polar.
Ben, non, si, on peut le dire, parce que le roman noir fait partie du polar. Mais maintenant, je préférerais dire auteur de roman noir. Voilà.
Auteur de romans noirs.
Tout ça pour m'opposer un peu au roman policier, parce que je trouve que il y a des chiens policiers, il y a l'état policier, et tout ça, des romans policiers, ça fait un peu beaucoup, quoi.
Alors, Empoignons la bête, ça commence. Bon, le deuxième chapitre, c'est les aiguilleurs, mais dans Empoignons la bête, les origines même. Alors, on a parlé du roman noir américain, là, hein, vraiment la référence, mais il y a des romans noirs avant ces auteurs.
Oui, alors ça c'est un gag, mais c'est vrai que les grands thèmes du roman
Crime et
noir,
châtiment.
Crime et châtiment serait plutôt un roman policier. C'est-à-dire que c'est plutôt un ancêtre du roman policier, parce que c'est quand même un flic qui interroge un criminel qui veut lui faire cracher le morceau, quand même, si on y va brutalement. Non, Patrick Reynal a réglé la question en publiant dans la série noire Œdipe Roi de Sophocle. Parce que dans Œdipe Roi de Sophocle, il y a un sujet tout à fait. Tout à fait à la Jim Thompson, que Jim Thompson aurait pu prendre. Et puis en même temps, c'est un roman assez urbain, parce que Œdipe, il est enfermé hors de la ville. Il essaie d'entrer dans la ville où tout est courbe. Enfin, il y a un peu les thèmes. C'est un peu une rigolade, bien sûr, qu'on ne peut pas faire remonter le roman noir à Œdipe Roi de Sophocle. Mais en même temps, tous les thèmes y sont déjà. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est plus intemporel. Et beaucoup plus large que le roman policier qui, lui, apparaît vraiment dans la deuxième moitié du 19e siècle.
Alors, brève histoire du roman noir, j'ai dit 9 chapitres, et puis il y a aussi, enfin le 9e, c'est une nouvelle, hein, Sauvons un arbre, tuons un romancier, on y reviendra. Donc le premier chapitre, Empoignons la bête, on a commencé à le faire, on y voit un peu plus clair, même si, bon, réussir à classifier hein, ces différents sous-genres, finalement, c'est pas...
Ouais, surtout qu'il y a des auteurs qui mélangent les quatre. Hein.
Voilà, c'est ça.
Quelqu'un
ouais.
comme Elroy, c'est du roman policier parce qu'il y a les flics dedans, qui sont par commandable, mais enfin, ça fait rien. C'est du roman social, parce que c'est de la critique du roman noir, parce qu'il fait une peinture de la société américaine à certaines époques et d'une efficacité totale. En même temps, il s'intéresse beaucoup au mal, au thriller, au tueur, donc c'est aussi du thriller. Il fait pas de roman vraiment d'énigme, bien que ça soit une énigme générale qui sous-tende toute son œuvre, c'est-à-dire Daïa Noir, ou du moins la mort de sa mère assassinée.
Alors, justement, Jean-Bernard Puy, pour aborder cette histoire du roman noir, on n'avait pas choisi de prendre ces quatre sous-genres hein, et de travailler successivement sur ces quatre sous-genres. Vous avez choisi une classification complètement différente d'auteurs que vous considérez être comme les auteurs de roman noir, mais vous leur avez trouvé, on va dire, un apport particulier au roman noir. Donc, il y a les aiguilleurs, les forcenés, les pessimistes, les allumés, les étoiles filantes, les intellos, et puis Noir devant, bon, bah, c'est ce qui vient. Alors, comment ça s'est fait, cette classification-là le...
Oh ben c'est simple, c'est par élimination. C'est-à-dire que, enfin non, notre gros problème, c'est qu'on a parmi nous quelqu'un qui s'appelle Claude Mesplède, qui, à l'aide de plusieurs individus, dont moi d'ailleurs, a fait un dictionnaire qui est mondialement connu et qui est le seul exemplaire de dictionnaire des littératures. Alors, il appelle toujours ça, lui, littérature policière.
Au pluriel.
Au pluriel, ce qui m'embête un peu. Mais.
Alors, Jean-Bernard Pic, dictionnaire de. Vous l'appelleriez comment ?
Oh, ben, des dictionnaires. Moi, je. Dictionnaire de littérature populaire, et il aurait fallu rajouter quelques articles, mais pour moi, tout ça, c'est la littérature populaire, quand même. Parce que là, il y a tout le monde. Hein. Il a traité. Alors, il en manque un peu, mais s'il y a une autre édition, il va rajouter.
Là, on en est déjà à la deuxième édition. Il était l'an dernier au Salon du Livre. Hein,
et même, j'ai même fait. Bon, j'ai fait plusieurs articles, mais j'ai fait même un article sur les éditions de minuit. Mm-hmm. C'est-à-dire, je me disais, en tant que bon péréquien, qu'il fallait qu'il y ait le clinamen, donc ce qu'il y avait de plus blanc chez les blancs, il fallait que ça soit dans un dictionnaire des littératures noires.
Avec
donc, des littératures noires, moi je dirais.
Mais
les littératures
auteur,
noires, c'est embêtant parce qu'on peut croire aussi que c'est la littérature des auteurs de race noire, donc ce qui est toujours pénible aux États-Unis, quand ils disent black machin, black ceci, ça, ils ne savent pas trop à qui on s'adresse. C'est vrai qu'au départ, d'ailleurs c'est une grande blague, Chester Himes. Quand il est arrivé à la série noire, protégé un peu par Marcel Duhamel, il lui a dit « Écris-moi une histoire noire ». Mais quand il lui a dit une histoire noire, il disait « Écris-moi un roman noir ». Et lui, qui était black lui-même, il a cru qu'il fallait raconter une histoire où il y avait des noirs. Et c'est comme ça qu'il a écrit « La Reine des Pommes », qui est un chef-d'œuvre.
Ouais. Bon, et qu'il a créé ces deux personnages.
Mais en se gourant complètement sur le terme. Mmh. Donc toujours, c'est un peu... Toujours embêtant. Donc, il a tout fait, il a tout écrit, il a tout recensé. Donc, à partir de là, on peut absolument pas faire la même chose. D'abord, je me suis beaucoup inspiré de lui. Donc, comme on m'a demandé à moi, j'ai utilisé uniquement mes goûts et ce que j'ai lu, parce que tout ce que j'ai pas lu, je peux pas en parler. Alors, j'ai des manques, il y a des trous. Je me fais insulter depuis que ce bouquin est paru.
Non, pas insulter, quand
non,
même.
Non, mais si, t'aurais dû parler de ceci, t'aurais dû parler de cela, bon.
On va y revenir. Bon, moi j'ai répertorié 103 écrivains cités. On va y revenir. On fait une petite pause et on revient donc sur cette bibliothèque que vous nous proposez, Jean-Bernard Puy.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time.
I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. Do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time.
Voilà, un Noir c'est Noir consacré, une émission spéciale consacrée à la brève, une brève histoire du roman noir de Jean-Bernard Pouy, qui est sorti récemment aux éditions L'Œil Neuf, donc un petit bouquin qui nous permet de parcourir un genre littéraire, qui est plus qu'un genre, qui nous permet de parcourir de la littérature, on va dire la littérature populaire.
Oui. C'est essentiel, ça.
Je pense que c'est... Ouais,
et la littérature populaire, c'est pas la littérature pour le peuple. Hein. C'est cette littérature dont le premier état est lisible par le plus grand nombre.
Voilà, c'est ça. Vous participiez il y a quelques années à l'occasion du Salon du Livre d'Arras, qui est un salon du livre d'expression populaire et de critique sociale, à un débat, une discussion autour de la littérature populaire. Moi, j'avais aimé une définition que vous aviez donnée là, de la littérature populaire. C'est-à-dire, c'est une littérature où il n'y a pas besoin de décodeur.
Voilà, tout ce qu'il y a dedans après comme code, référence, jeu intellectuel, référence, ainsi de suite, ça vient après, ça ne doit pas empêcher la lecture. Donc tout le monde participe à un premier état de lecture, qui est généralement de l'ordre du roman, et après, selon son niveau d'intérêt, ou son niveau culturel, ou ratata, trouve des choses. Mais les choses qu'il trouve ne sont pas essentielles à la compréhension du texte. Alors que la littérature blanche, c'est un peu le contraire. Le code vient devant, je ne porte pas de jugement, hein, mais le code vient devant, et si on n'a pas le code, on ne va pas rentrer dedans. Quoi. Je veux dire, faire lire James Joyce à Finnegan's Wake, un gosse qui a jamais lu, c'est même pas la peine. Bon, donc, il faut d'abord qu'il apprenne les codes joyciens pour pouvoir trouver tout le sel de ce livre, ce qui est normal.
Alors, donc, dans cette brève histoire, à chaque fois, vous illustrez vos propos par des lectures. Et résultat, on a 103 écrivains à citer, répertoriés, avec un peu plus de romans, parce qu'il y a quelques écrivains qui sont sans doute plus importants pour vous, et pour lesquels vous référencez plusieurs romans. Donc, un petit retour sur les aiguilleurs, même si on a déjà évoqué plusieurs noms, donc les romanciers américains, Hamet, Chandler, etc. En France, on a parlé de Jean Amila. Alors, au petit jeu, mais c'est vraiment un jeu en toute complicité, Jean-Bernard Pouy, au petit jeu des absents, on ne voit pas apparaître Léo Mallet. Et au niveau des aiguilleurs, dans le roman noir français.
Oui, mais soyons honnêtes, moi, j'aime pas Léo Mallet. Ouais, la discussion est close.
Bon.
Non, j'aime pas trop Léo Mallet. Donc, j'ai jamais pris un très grand plaisir à lire Léo Mallet. Donc, comme là, j'avais pas le temps de citer absolument tout le monde, j'aurais pu le citer parce que sa trilogie noire est
quand même
un truc. Mais après, il a fait tellement de conneries, voire des choses un peu illisibles, que bon, ouais, c'est comme ça. Je préfère citer Amila que Léo Mallet.
Alors. Il y a les aiguilleurs, il y a les forcenés. Et là, il y a un nom qui est incontournable, Simenon.
Ah ben, il est forcené parce que il a baisé 10 000 femmes dans sa vie. Enfin, c'est lui qui le dit. parce qu'il a écrit un nombre de romans incroyables, parce que c'est une espèce de brute. Et c'est pas la brute que l'on croit. C'est vrai que, bon, on connaît pour Maigret, mais les romans dits tropicaux de Simenon sont tout à fait étonnants. Alors, c'est pas un idéologue, c'est-à-dire il va jamais dénoncer formellement un travers, ainsi de suite. Mais les romans qu'il a fait, dit les romans des tropiques, Le passager clandestin, Le crime de Monsieur Steele, tout ça, sont des attaques du colonialisme blanc atroces qui sont parmi les plus dures et les plus remarquables qu'on pouvait lire à l'époque. Et ça, on l'oublie un peu. Simplement, il ne l'a jamais ramené. Au contraire, c'est un peu réac, comme ça, de temps en temps. Bon, c'est vrai que le roman Les gens d'en face, qui est un roman anti-stalinien, était tellement anti-stalinien que ça pouvait passer pour un roman, par exemple, d'extrême droite. Mais en fait, quand on lit les autres, pas tellement. C'est vraiment le travers de gens déplacés, notamment des gens venus d'Occident pour emmerder les gens des autres pays, où là, il est d'une férocité et d'une méchanceté qui, de temps en temps, est extrêmement jouissif. Ouais.
Alors, quatrième chapitre consacré aux pessimistes. Est-ce que tous les auteurs de romans noirs ne seraient pas pessimistes, Jean-Bernard Pouilly ?
Pas tous, parce qu'il y en a qui rigolent quand même, il y en a qui...
L'humour noir, hein, quand même.
Oui, bon, mais il y en a qui,
bien placé,
comme c'est un roman de critique sociale, il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher d'essayer de donner des clés, des raisons de combattre, des raisons de survivre. Et là, je ne peux pas vraiment les classer comme vraiment des pessimistes, même si ce qu'ils racontent est terrible. C'est quand même soit limitants, soit idéologues. Ils essaient de dire c'est pas comme ça qu'il faut faire, ça serait comme ça. Mais il y en a qui sont... bon, je sais pas, je pense qu'il y a Jim Thompson dans le tas.
Ouais.
Jim Thompson est non seulement un pessimiste, mais un pessimiste qui peut aller assez facilement dans sa propre folie. C'est-à-dire, il voit Dieu, quoi. Il voit Dieu dans son malheur. Hein, bon.
Il y a pas mal d'écrivains que vous appréciez particulièrement dans cette partie, là, des pessimistes. Ken Brain.
Ah oui, Ken Brain. Alors, Ken Brain est très pessimiste, mais il est pessimiste pour lui-même. Alors, on sait pas trop... Par exemple, il se réjouit de la crise qui, dans le dernier que j'ai lu de lui, il se réjouit de la crise en Irlande. Ça l'énervait, lui, l'Irlande néolibérale, tout ça.
Donc il est irlandais, lui, hein, Ken Brain.
Oui, en plus de l'ouest de l'Irlande, de Galway. Et lui, de revenir au temps des patates et des alcoolos qui traînent dans la rue à quatre pattes, ça, c'est pas fait pour le décevoir. Donc il aimait pas les mecs en costard qui travaille dans des banques. Donc il est assez content quand même, lui, de la crise. Mais c'est un vrai pessimiste, parce que c'est la maladie, bon, des maladies très irlandaises, l'alcool, la religion, tout ça, dans lequel il rentre de plein fouet, et il gagne pas forcément, quoi. Bon, c'est...
Alors, justement, je reviens un petit peu à cet aspect, auteur de romans noirs, auteur quelque part pessimiste. Bon, je vais prendre un exemple, c'est Donald Westlake, un auteur aussi que vous aimez beaucoup, qui n'est pas catégorisé dans les pessimistes, hein, qui est, bon, je le retrouve dans les forcenés. Bon,
dans les forcenés, oui.
Bon, beaucoup. Mais un roman, par exemple, comme Le Couperet.
Oui, c'est pas ce que je préfère chez lui, moi, mais parce que c'est évident.
Donc l'histoire d'un cadre qui perd son emploi et qui,
voilà, il a un emploi très très particulier et donc il sait que s'il y a un autre poste de ce genre qui s'ouvre, il va y avoir 8 postulants, donc il va tous les bousiller pour être sûr d'avoir le poste. Quoi. Donc il se transforme en tueur en série pour des raisons d'ANPE presque. Enfin, bon. C'est pas ce que je préfère, mais c'est vrai que... l'imagination de ce mec est terrible et que il prend des sujets extrêmement simples qu'il met en scène simplement. C'est-à-dire un mec qui perd son boulot, bon, enfin, bref. Et il y a des romans hilarants, parce qu'il est généralement sous le couperet, c'était pas drôle, mais des romans hilarants qui traitent un peu la même chose. Il y a Comme des frères, moi, je demande toujours qu'on le lise, parce que c'est un monastère à New York avec des moines un peu incultes, et puis ils sont menacés de trucs immobiliers, enfin voilà, on va essayer de détruire leur monastère pour construire des immeubles. Donc ils envoient le moine Tourier, qui est le seul qui a le droit de sortir du monastère, pour aller voir ce qui se passe. Sauf que le moine Tourier, dans sa simplicité franciscaine, va niquer tous les agents immobiliers de New York les uns après les autres et gagner un pognon d'enfer. Donc c'est ce côté-là, c'est ces idées un peu bizarres. Je le traite de forcené parce qu'il n'arrête pas d'écrire.
Oui, parce qu'il aurait pu être aussi dans le chapitre donc 5, les allumés, hein, avec Charles Williams, James Crumley, et ici je vois Rick Rose, Christopher Moore.
Les allumés, ça se voit aussi dans le style. Mm-hmm. Alors que le style de Westlake est très simple, très,
ouais, c'est vrai.
Très courant, alors, très coulant. Ouais.
Justement, toujours au jeu des absents dans le chapitre allumé, Mark Bem, par exemple.
J'en ai oublié plein volontairement. Mais Mark Bem, je l'ai oublié, effectivement. Mais peut-être parce qu'il n'a pas fait énormément de bouquins, et qu'il y en a un ou deux qu'on connaît bien.
Mortel Randonnée, ouais.
Surtout. Mais c'est vrai que j'aurais dû le mettre parce que Mark Bem a fait un petit choc quand même quand son roman est sorti. Mais j'aurais pu parler de Charin aussi, Jérôme Charin.
Ouais.
Bon, mais je suis obligé d'en oublier, quoi.
Il n'est pas cité, Jérôme Charin.
C'est possible qu'il le soit,
ouais. Oui, il me semble. Donc, un oubli que...
Et Mark Bem, oui, ça c'est vrai.
Donc, dans une prochaine édition...
Rajoutera Mark Bem.
Voilà, il y sera. Ensuite, on arrive au... Il y a les étoiles filantes. Donc là, c'est aussi, effectivement, un chapitre intéressant. Bon, le bouquin de référence, hein, en l'occurrence, c'est le bouquin de...
Peter Lofran.
Voilà, c'est ça, Londres Express.
Hein. Oui. On ne sait pas qui a écrit ça. Enfin bon, il y a plusieurs thèses. Il y en a qui disent que c'est Graham Greene. D'autres disent qu'il y a un vrai Peter Lofran qui aurait écrit autre chose. Enfin bon, tout ça, c'est une étoile filante, mais c'est un bouquin qui est très étonnant, terrifiant. C'est une espèce de monologue. Certains ont dit que c'était aussi une copie de la fin de d'Ulysse de Joyce, du monologue de Molly. Donc, on ne sait pas. Ça, c'est des... Alors ça, c'est Marcel Duhamel qui, quand même, avait une bonne pratique du surréalisme et qui était un vieux copain de Prévert et tout ça, qui connaissait, qui savait comment de temps en temps mettre un espèce de brûlot pour faire parler de lui, passer pour un intellectuel. Alors, on ne sait pas trop d'où ça vient, ça. Mais c'est vrai que c'est un livre unique. Il y en a plein dans la série noire, bizarrement.
Ah oui, beaucoup plus. Ouais. Ouais. Donc là, bon, vous en citez Comics Banditos, aussi, ouais, en série noire, de Weisbecker.
Oui, ça, c'est un cas.
Ouais, ouais.
Un polar construit selon des méthodes de physique quantique. Enfin, c'est surtout de fumette abondante. Hein,
ouais. Alors, il y a aussi Richard Brautigan, qui est quand même bon, il, avec Un privé à Babylone, il a écrit d'autres choses.
Oui.
On le connaît
là,
quand
je
même.
Je vais mettre, parce que c'est quand même toute cette littérature qu'on lisait plus jeune. Mm-hmm. Et Brautigan, c'est quand même la poésie, l'amour du Japon, le côté hippie, mais pas baba, tout ça. Et puis, il a écrit un polar qui est totalement déjà Janté, Privé à Babylone. Donc je l'ai cité parce que c'est vrai que les gens de l'autre littérature qui font des polars, c'est généralement catastrophique. Jean-Louis Debré, François-Olivier Gisbert, tout ça. Donc pour une fois qu'il y a un auteur blanc qui fait un vrai polar, enfin marrant, et puis qui comprend bien ce que c'était, genre Brautigan, je le cite.
Alors justement, les auteurs blancs, on y arrive. Il y a un chapitre, c'est le 7, hein, qui est consacré aux intellos. On peut l'attaquer comme ça. Et donc, on vient aux éditions de Minuit, parce que, bon, il y a Jean Echenoz, hein, avec Shiroki, que vous citez. Et puis surtout, on parlait des éditions de Minuit, donc qui ont leur place dans votre bouquin, hein, Jean-Bernard Puy, avec un auteur, moi j'étais vraiment très content de le voir cité, c'est Tanguy Viel, qui a écrit un premier bouquin, L'absolue perfection du crime, Insoupçonnable. C'est vraiment du roman noir.
Alors, je l'ai cité... Ça, entre le roman policier et le roman noir. Mais il est très intéressé par les codes. Les codes que nous, on essaie systématiquement de faire disparaître dans le cours du récit, dans le cours du roman. Alors que lui, il se base là-dessus, il faut qu'il les fasse réapparaître dans le cours de notre roman. Alors c'est très amusant. Et c'est tellement bien écrit que c'est assez passionnant, parce qu'il est d'une intelligence assez redoutable, Tanguy Viel. Donc il sait très bien ce qu'il fait. C'est pas uniquement pour prendre des trucs et avancer. En même temps, il nous parle. Moi, j'ai l'impression qu'il me parle aussi. Donc, bien que ça soit plus entre le roman policier et le roman d'énigmes, mais c'est tellement intelligent, c'est tellement bien écrit, bien fait, que j'étais obligé de le citer quand même.
Alors, on en arrive au noir devant, hein, c'est-à-dire bon, les jeunes auteurs, les nouveaux courants du roman noir. Alors, vos derniers coups de cœur, Jean-Bernard Puy, là-dedans, sur le, ces nouveaux auteurs.
Récemment ?
Ouais, récemment, ouais.
Parce que là, quand même, ce bouquin, il a déjà 5 ou 6 mois. Bon, il y a Kirill Ferret, c'est sûr. Il y a Pascal Garnier, que j'aime beaucoup, vraiment. Il y a Marcus Malte, dont j'ai pas parlé.
Ouais, c'est vrai.
Là. Mais Marcus Malte est un auteur qui aurait tendance, peut-être maintenant, à surécrire. C'est-à-dire, si je. En tant que vieux.
Il pourrait, c'est quelqu'un qui pourrait basculer à la blanche, comme certains auteurs de noir. Qui, non,
ouais, bah, surtout qu'il pourrait basculer dans l'incompréhension. Quand c'est trop écrit, c'est plus tellement du roman populaire. Alors, effectivement, ça pourrait être peut-être un autre genre de roman, mais.
Dans le bouquin, moi je vois aussi Leonardo Padura, qui est un Cubain.
Alors, dans le domaine étranger.
Dans le domaine étranger, là, c'est. Ça,
Padura, j'adore, parce qu'il s'intéresse qu'à la bouffe, en fait. Donc, dès qu'il fait des scènes très très dures, alors ça se passe à Cuba, et il décrit vraiment la misère, tout en n'étant pas violemment anticastriste, alors c'est assez étrange. Mais enfin, il montre que ça va pas. Dès qu'il a fait une grande scène horrible, les personnages immédiatement vont bouffer. Et c'est vraiment du délire, là, parce que je sens que c'est du plaisir... total. Et puis, il a écrit un petit livre où il se fout de la gueule des Mingues, qui est quand même très, très marrant et très agréable, alors qu'il l'admire.
Oui, on sent qu'il l'admire. Ouais. Ouais. Donc, Leonardo Padura, qui est publié chez Métellier. Jean-Bernard Pluy, quand on referme ce bouquin, donc, bien sûr, il y a le jeu, il manque qui, etc. Bon, moi, j'avais repéré aussi, par exemple, Denis Lehan, au niveau des... Ouais. Mais apparemment, donc, c'est pas quelqu'un avec qui vous accrochez.
Mais si, mais moi, je suis plutôt culture série noire. Donc, Rivage, j'en ai lu beaucoup, mais je me tiens pas totalement au niveau des productions. Je vais le faire, alors, donc c'est pour la réédition. Non, il y en a plein.
Donc il va y avoir une réédition, là ?
Ben, on va voir. Si tout le monde se précipite à Arras pour acheter ce livre, peut-être que...
Bon, alors, dernière chose, il manque quand même quelqu'un d'important, et là, je pense qu'on a déjà dû vous le dire à plusieurs reprises, il manque quand même Jean-Bernard Pouy.
Ah oui, non, bon, attends...
Alors, on pourrait le mettre où, Jean-Bernard Pouy ? Il est forcené, allumé, pessimiste ? Un télo ?
Plutôt les forcenés, je crois, parce que j'écris beaucoup et puis personne n'arrive à m'empêcher d'écrire, quoi. Tout en me disant tout le temps, les gens disent, oh, quand même, tu aurais dû faire un effort, tu devrais faire ceci. Je serais plutôt du côté Simenon, oui. Mm-hmm. En étant complètement déconneur et pas du tout raconter les mêmes choses que lui, mais je crois que c'est par la masque, par la quantité, plus que par la qualité qu'on s'en sortira.
Ben Jean-Bernard Pluy, merci beaucoup. Donc, on vous invite à lire ce livre, qui est une invitation à en lire d'autres.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment un petit passeport où il y a plein de lacunes. Bon, et puis, mais bon, c'est ma culture, hein, parce que sinon, sinon, vous achetez le dictionnaire des littératures policières de Claude Mesplède, 2 volumes, 50 € le volume, et puis vous avez tout ce qui est écrit. Tout ce qui est littérature populaire, policière, dans le monde entier.
Mais je pense que d'abord, il faut lire une brève histoire du roman noir. Et si on y trouve, on y prend plaisir, on ira forcément au dictionnaire des littératures. On élargira forcément. En tout cas, un petit bouquin par la taille, qui se lit très très vite, mais vraiment très très, très intéressant. Jean-Bernard Pouy, nous sommes très heureux de vous avoir reçu ici à PFM. Et alors, les projets à très court terme, un bouquin qui doit sortir.
Il y a un poulpe qui sort.
Donc un poulpe au mois de juin.
Dans le Nord, qui se passe
dans
le Valenciennes, eh bien, Mortagne du Nord.
Voilà, donc on attend de le découvrir. Encore merci à vous.
Merci à vous.
C'était donc un Noir c'est Noir spécial, une rencontre avec Jean-Bernard Pouy à l'occasion d'une brève histoire du roman noir paru à L'Œil Neuf. Merci à lui, surtout merci à Manu qui a assuré la technique de cette émission. Voilà, au revoir à toutes et à tous.